sert jamais à rien d'être pessimiste parce qu'on souffre deux fois. Je préfère être optimiste et déçue que de penser à l'avance que tout va mal se passer parce que là, je suis déjà malheureuse. Donc, il vaut mieux être dans
On vous rejoint, là, complètement. Voilà. Là.
Je trouve que déjà, il faut faire tout ce qu'on peut pour que la vie soit douce et belle autour de soi.
Ouais,
que
c'est
les, que, voilà.
Petite profession de foi signée Nancy Houston, qui sera donc mon invitée. On parlera de l'Alberta et des sables bitumineux avec elle. C'est au demande amour parce qu'on n'attend pas le changement, mais que nous sommes nous-mêmes le changement. Avec aujourd'hui Benjamin de la Gâtinais et Stéphane Beaufils à la technique, et assisté de Jérôme Boulet, sans oublier Albert Hook, c'est Christophe Imbert qui réalise l'émission. Commence par une petite humeur. Allez, pour une fois, on a une bonne nouvelle pour la biodiversité. Bon, c'est sûr, ça ne concerne pas un biotope hexagonal menacé par un quelconque projet inutile. Non, l'affaire se déroule chez nos cousins au Canada, au Québec. Vous allez comprendre, figurez-vous qu'il était question de créer un imposant port pétrolier à environ 200 km en aval de cette bonne ville de Québec, sur les rives du fleuve Saint-Laurent. Alors, le but de l'opération consistait à acheminer via un oléoduc de 4600 km le pétrole extrait à l'ouest du pays dans la province d'Alberta, on y reviendra avec Nancy Houston, soit la bagatelle de plus d'un million de barils par jour, et ceci vers la façade atlantique qui est donc la porte ouverte sur les marchés mondiaux. Bon, seul petit problème à ce scénario pétrolier, n'excluant pas l'éventualité de jolies marées noires dans les eaux du fleuve, la zone pressentie est également prisée par ces baleines emblématiques du Saint-Laurent que sont les bélugas. Ah, ils nous embêtent, ces bélugas. Bélugas qui, depuis des temps immémoriaux, viennent dans ces eaux donner naissance à leurs rejetons. Jadis aussi nombreux que des voitures engorgeant le périphérique, ces malheureux cétacés ne sont plus aujourd'hui qu'un petit millier d'individus. Donc l'espèce est sérieusement menacée d'extinction. Et ces petites baleines blanches n'apprécient guère, semble-t-il, de voir leur terrain de jeu se transformer un peu plus chaque jour en dépotoir. Et ce projet de terminal pétrolier aurait bien pu signifier leur éradication. Bon, en tout cas, face à ces enjeux économiques pourtant colossaux, eh ben les défenseurs de ces Moby Dick en réduction, oui je sais, Moby Dick c'était pas forcément un biluga, mais voilà, donc ont obtenu gain de cause pour leur protéger. Devant la forte mobilisation des associations de défense de l'environnement, la société TransCanada, porteuse du projet, a annoncé qu'elle y renonçait purement et simplement. Les bélugas pourront donc continuer à batifoler dans les eaux du Saint-Laurent. Et une autre nouvelle tout à fait intéressante et assez positive, la Société Générale a annoncé hier qu'elle jetait l'éponge, elle se retire du projet contesté AlphaCoal, donc une gigantesque mine de charbon en Australie. Il s'agit en fait d'une première et importante victoire des mouvements citoyens qui exigeaient l'abandon de cette bombe climatique. À l'initiative des Amis de la Terre, d'Attaque, de Bizi, donc nos amis du Pays Basque, alors, ils y ont été, hein, devant les agences de la Société Générale, ils ont déversé donc, des tas de choses, du charbon, etc. Et donc le projet doit maintenant être définitivement abandonné par ses promoteurs australiens et indiens. Comme quoi, ça se confirme, quand les banques vont au charbon, elles minent durablement la planète.
CO2 Mon Amour avec Denis Chessou sur France Inter.
Au sommaire donc de cette émission, mais je vous l'ai déjà fait donc assez rapidement, en fin d'émission, on ira du côté du Center Park dont vous rêvez en Isère. Donc un point avec à la fois des opposants et aussi des adhérents donc à ce projet. Sable bitumineux en Alberta, c'est le pays donc d'origine de Nancy Houston, écrivain de son état franco-canadienne que nous connaissons bien ici sur France Inter. On en parlera avec elle, mais auparavant... Eh bien nous, ça nous tente et puis c'est l'actualité. On va rejoindre Claude-Marie Vadreau. Claude-Marie, bonjour, vous êtes journaliste à Politis. On est à 10 000 kilomètres là et donc dans ce pays de 1 300 000 kilomètres carrés, 30 millions d'habitants et donc cette cordillère des Andes nord-sud qui charpente le pays. Alors vous y êtes parce qu'en fait, on voudrait avec vous faire le point sur cette conférence, on va dire climat à Lima, où 195 nations discutent pour trouver donc un compromis climatique à un an de la conférence de Paris. Claude-Marie Vadreau.
Bonjour Denis. Mais écoutez, je dirais que les héros sont fatigués, c'est-à-dire que les négociateurs ont 10 conférences derrière eux, ne se préoccupent plus tellement du climat, mais des virgules et de tout ce qui peut changer un texte selon les exigences. Ce sont devenus des diplomates du climat plus que des gens préoccupés de lutter contre le réchauffement climatique.
Claude-Marie, les enjeux, on va les rappeler, ce serait d'arriver d'ici un an à Paris avec des résultats très concrets.
Mais pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. Au début, tout le monde était optimiste, je dirais presque comme à chaque conférence. Et puis maintenant, eh bien, on entre justement dans ces détails, dans ces phrases qu'il faut revoir. Les pays industrialisés voudraient que la négociation avance vite et les pays du Sud se méfient de ce qui peut se cacher derrière les phrases et les tournures. Et puis il y a toujours la question de l'argent. Les pays du Sud disent fort justement... nous voulons bien arrêter de polluer, beaucoup moins que vous d'ailleurs, mais il faut nous aider, sans ça il n'y a pas de solution. Et c'est la constitution du fonds pour les aider qui pose beaucoup de problèmes.
On rappelle que ce fonds, ce serait 100 milliards de dollars par an. Hein.
Oui, mais on les a pas.
Et là, en plus,
ce ne sont que des promesses hein, qui n'engagent que ceux qui les écoutent.
Claude-Marie, parlez-nous aussi quand même de ce Pérou aujourd'hui. Comment ça se passe, puisque vous avez l'œil, on va dire, écologique. À quoi ressemble ce pays ?
Eh bien, écoutez, mon œil écologique, quand il regarde par la fenêtre du 12e étage où je suis, il voit énormément de pollution. Je veux dire que l'année prochaine, quand ils arriveront à Paris, les costumes-cravates pourront mieux respirer, parce qu'ici, bon, la pollution règne dans l'atmosphère. Alors, il n'y a pas que ça, bien sûr. Hein. Il y a un pays qui a soif, un pays qui, comme beaucoup de pays en Amérique latine, manque d'eau parce qu'il ne pleut plus assez. Je ne parle pas à Lima où il pleut pratiquement jamais, mais dans le reste du pays, il ne pleut plus assez. Les glaciers sont en train de remonter sur les Andes, donc ils ne donnent plus assez d'eau à ce pays qui en a besoin, puisque, bien sûr, il y a des exploitations minières avec... conflits avec les populations indigènes, mais il y a aussi un pays agricole qui a du mal à s'en sortir et qui voudrait conserver son agriculture paysanne, comme nous disons en France, c'est-à-dire des petits exploitants dont les cultures ne seraient pas aux mains de grandes entreprises agroalimentaires.
Et lorsque nous mangeons des asperges vertes,
eh bien, les 200 000 tonnes d'asperges vertes produites chaque année par le Pérou, à cette période de l'année, elles posent plusieurs problèmes. D'abord, c'est de la production industrielle, avec tout ce que l'on peut mettre dessus pour les faire mieux pousser ou pas pourrir. De toute façon, ces ouvriers agricoles sont très mal payés. Et puis ensuite, ça ne vous échappera pas qu'il y a là un fantastique gaspillage énergétique que d'envoyer 200 000 tonnes d'asperges par avion en Europe et en France.
Quels sont les points positifs que vous voyez aussi dans ce pays ?
Les points positifs, c'est qu'il existe ici une société civile très, très remuante, très, très active, qui est probablement moins fatiguée que la nôtre en Europe. Ce sont ces gens-là qui font bouger le pays. Ce sont ces gens-là et tous leurs amis des autres pays d'Amérique latine qu'on verra le 10 décembre défiler dans Lima et que l'on voit déjà au parc des expositions montrer ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils savent faire. Et c'est un mouvement qui doit beaucoup aux indigènes, aux Indiens et aux agriculteurs. Les gens de Via Campesina, cette organisation dont fait partie la Confédération paysanne en France, eh bien sont très actifs et Et ce sont eux qui veulent changer le pays.
Merci à vous, Claude Marie Vadreau, pardonnez-moi, donc depuis Lima. Et puis moi, je vous signale que Politis a sorti un excellent numéro hors série. C'était le numéro de novembre-décembre, donc on le trouve, qui s'appelle « Le retour des solidarités ». Et là, vous avez un point qui est très bien, alors à la fois sur les biens communs et on va dire qu'on est de l'utopie à la réalité dans toutes les transitions écologiques dont on parle régulièrement dans cette émission. Donc, « Le retour des solidarités », c'est un hors-série Politis. Nous poursuivons notre voyage avant de retrouver Nancy Houston en musique. Oui, vous êtes bien sur France Inter, on aime la musique et notre programmateur également. C'est Vanessa. Je vous donne pas le nom de famille. Bon, on n'en a pas 15, hein, je crois, en magasin. Non, c'est ça. Et Benjamin Biolay.
Si t'as la moyenne en rien, tu pourras faire Condé ou pourquoi pas musicien. Ma maman me disait, si t'as la moyenne en rien, tu pourras dominer, car les âmes sont des chiens qu'on tient par le collier. Si t'es économe, que tu fais pas de bruit, si t'es dans la norme, que tu restes assis, si t'as des carences et penses être maudit, rends-toi l'évidence, tu peux réussir ta vie. Si t'as la moyenne en rien, tu peux faire des étincelles. Dis-toi le bien. La vie, la vie, la vie, c'est comme un tractopelle. T'as besoin de permis. T'as besoin de permis. Si t'as la moyenne en rien, tu pourras faire curé ou pourquoi pas magicien. Ma maman me disait, si tu t'agites
de mon amour, Denis Chessou sur France Inter.
Pas besoin de permis, donc c'était Vanessa Paradis, vous l'aviez très très bien compris. Elle disait la vie, la vie, la vie, tu verras, c'est peut-être comme un tractopelle. Et bien ça va nous faire une liaison puisque j'ai eu la chance de rencontrer Nancy Houston chez elle à Paris, écrivain franco-canadienne que nous connaissons bien, qui est née donc à Calgary, qui vient de sortir d'ailleurs aussi un ouvrage, hein, qui s'appelle Bad Girl, qui est un bel essai autobiographique sur les origines de sa vocation. Et puis bah, avec Nancy Houston, nous on va parler de son pays. Vous allez bien sûr comprendre pourquoi. Bonjour Nancy Houston.
Bonjour Denis Chessou.
Alors Nancy Houston, on va parler avec vous quand même d'écologie, d'environnement, parce que vous venez quand même d'une province qui s'appelle l'Alberta, on est dans l'ouest du Canada. C'est pas rien, hein, c'est 2,5 millions de kilomètres carrés, pour se rendre compte un petit peu des proportions. Et alors, c'est le lieu où on extrait ce qu'on appelle les sables bitumineux ou les schistes bitumineux. À quoi ressemble aujourd'hui donc cet état? Parce que vous avez eu un vrai coup de gueule. Vous avez écrit « Je suis chez moi et hors de chez moi ». En encourageant le développement à outrance des industries pétrolières albertaines, Stephen Harper, qui est le chef du gouvernement du Canada, met l'humanité en péril, l'humanité de ma province natale et l'humanité tout court.
Oui, c'est très peu connu en France, en fait. Je suis étonnée parce que là-bas, tout le monde en parle, ça fait des années, c'est pas depuis 2-3 ans, c'est depuis une vingtaine d'années que ces sables bitumineux sont développés. C'est déjà faire un choix politique de les appeler sables bitumineux et non pas pétroliers, parce que ce n'est pas encore du pétrole qu'on extrait, c'est du bitume, qui est une forme extrêmement sale du pétrole, qui a encore besoin d'être raffiné. Malheureusement, on n'est pas assez loin des Indiens, donc ça affecte très directement la vie des Indiens. En fait, c'est dans une continuité parfaite avec la démarche coloniale depuis le début de l'histoire canadienne, d'aller là-bas, de violer la terre et de laisser en pâtir les Indiens. La santé des Indiens en pâtit grandement. Ils sont en aval de ces opérations, mais je vais les décrire effectivement. C'est gigantesque et ils sont très fiers de ce côté énorme, géant. Ce sont des opérations qui occupent un espace de la taille de l'État de Floride. À terme, ça sera de la taille de la Grande-Bretagne, pour vous donner une idée.
Vu d'avion, les pelleteuses et les camions de chantier ont l'air de jouets. Mais dans cette seule mine, ils ont déjà remué plus de terre qu'il n'en a fallu pour construire la Grande Muraille de Chine, les pyramides d'Égypte et le canal de Panama.
Lorsqu'on les survole en avion, c'est une image de dévastation totale. Non seulement ils ont détruit les forêts, arraché la tourbe, mais ils font de la fracturation hydraulique systématique en profondeur. Et du coup, il y a des eaux polluées qui doivent être... Elles sont stockées dans des lacs artificiels qui s'appellent des lacs de rétention. Le poison va dans la nappe phréatique, coule jusque dans les rivières, et les rivières coulent vers le nord. Et donc, c'est les villages indiens au nord qui sont très affectés. Les poissons sont difformes, ont des vertèbres en plus ou en moins, sont cancérigènes, les gens meurent de tuberculose, de cancer. Enfin, il y a un côté très, très viril, assumé. C'est un pays de dinosaures et les gens se comportent comme des énormes dinosaures. Il y a des camions qui font 3 étages de haut. Ils sont très fiers. Ça coûte chaque... ne coûte 70 000 dollars. On est toujours en train de vous dire ces chiffres avec fierté, comme si en soi c'était merveilleux. On extrait en ce moment 1 million de barils par jour.
Donc c'est absolument énorme, parce que les réserves potentielles, vous le disiez, c'est 2500 milliards de barils, ce qui représenterait la consommation aujourd'hui effrénée de la Terre pendant 250 ans, je crois.
Mais c'est pour vraiment faire concurrence aux pays arabes, pour être très simple. Monsieur. C'est pour fournir les États-Unis en pétrole et la Chine. Et,
qui voilà. Déjà s'autonomise avec le gaz de schiste.
Voilà. Et donc, pour ne pas être dépendant des pays arabes, en clair, et pour ne surtout pas avoir à freiner la consommation du pétrole. Donc, on met entre parenthèses l'atmosphère. En fait, on met entre parenthèses la santé de la Terre, le réchauffement global. On n'est pas du tout dans le protocole de Kyoto, on le sait très bien, on le transgresse chaque jour que Dieu fait.
Bah, le Canada n'en veut pas, moi ils sont très clairs.
Le Canada n'en veut pas, ça lui fait du tort, et donc elle fait comme si ce n'était pas grave. C'est l'humanité, la vie de l'humanité, la survie de l'humanité qui est en jeu. Et c'est aussi une déshumanisation des êtres humains qui travaillent là-dedans. Il faut imaginer ça un peu comme Métropolis de Fritz Lang, avec des gens qui sont transformés en des rouages de machines. Il y a des dizaines de milliers d'hommes qui sont dans des camps de travail à côté de ces sites d'exploitation. Ils sont très, très bien payés. Ce ne sont pas des esclaves. Ils vont là quelques années. Ils viennent du monde entier. Il y a des Chinois, des Philippins, des Libanais. C'est exactement une ruée vers l'or noir. C'est très précisément ça. On a l'impression que les ressources sont infinies. Et c'est très difficile de croire que, en fait, ça pourrait poser un problème. La pollution. Et donc, les gens ne trient pas leurs ordures. Tout le monde a une grosse voiture, c'est des grosses cylindrées, c'est des camions. Et c'est presque comme si polluer, c'était chic, c'était bien. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas des femmelettes, quoi.
Bâtir sur du solide pour que nos familles grandissent et que nos communautés s'épanouissent. L'équipe d'EnergyEst est fière de savoir que l'oléoduc va dynamiser l'économie et l'emploi pour les gens d'ici et qu'il va générer des revenus fiscaux pour plusieurs communautés.
Ce que ça veut dire, qu'on bâtit ensemble un meilleur avenir pour nous tous.
Lorsque l'on parle aussi quand même de ces schistes bitumineux, on extrait d'abord du bitume. Alors, il faut le nettoyer, donc c'est une énergie qui est complètement démente, c'est énormément de pollution, mais après, c'est pas fini. C'est-à-dire qu'il faut, l'envoyer quelque part.
Et donc, ils sont en train de construire ces pipelines. Ils demandent à Obama l'autorisation du pipeline qui est le plus important, qui doit aller jusqu'au Texas. Et je pense que Obama, comme il a des soucis politiques sur plein d'autres plans, il risque de dire oui pour remonter son taux de popularité tout simplement chez lui, alors qu'il sait très bien que c'est une immense bêtise écologique. Harper vient d'approuver le pipeline qui va jusqu'à la côte ouest, au nord de Vancouver, pour que les bateaux chinois puissent venir prendre le pétrole sur la côte. Les Indiens, on dit maintenant les Premières Nations ou les Autochtones, ont protesté de façon très, très organisée depuis des années contre ces pratiques. Neil Young a fait une tournée de concert au début de cette année, 2014, qui s'appelait « Honor the Treaties », honorer les traités, parce que le traité numéro 7 cédait toutes ces terres-là aux Autochtones. Et donc, c'est une transgression absolue, une fin de non-recevoir de ces traités-là. C'est flagrant comme défaite du traité. Et la seule réponse de Harper à cette accusation, c'est que les traités ont été signés avant que l'Alberta ne fasse partie de la Fédération canadienne. Et donc, c'est...
Tout va bien.
Ça va, ça ne compte plus, c'est fini. Les Français et les Européens en général ont souvent tendance à voir le Canada comme un pays sympathique comparé aux États-Unis. C'est comme si nous, on était polis, on était doux, on n'était pas des exterminateurs comme les Américains l'ont été. Et c'est vrai que nous n'avons pas ouvertement massacré nos Indiens, si j'ose dire, comme les Américains l'ont fait. Mais le taux de mortalité a été désastreux quand même. Nous les avons sciemment affamés, nous les avons rendus malades. Et nous sommes toujours en train de dévaster les pays du tiers-monde à travers le développement minier. Le nombre de compagnies minières offshore qui sont déposées au Canada est hallucinant. Et les industries minières canadiennes ne répondent à personne au monde. Il y a un écrivain québécois, Alain Deneau, qui a beaucoup écrit là-dessus. Les gens perdent leur travail s'ils disent ce genre de choses. Ils peuvent être vraiment virés de l'université. C'est un pays, quand même, où la liberté d'expression est réduite, il faut le savoir. Notre premier ministre Harper est un fils de magnat du pétrole. Et ça se sent, c'est une mentalité de croissance sans frein.
Comment vous envisagez un demain possible ?
Ça ne sert jamais à rien d'être pessimiste parce qu'on souffre deux fois. Je préfère être optimiste et déçue que de penser à l'avance que tout va mal se passer parce que là, je suis déjà malheureuse. Donc, il vaut mieux être dans
On vous rejoint, là, complètement. Là.
Je trouve que déjà, il faut faire tout ce qu'on peut pour que la vie soit douce et belle autour de soi. Voilà. En fait, je trouve qu'il y a une conscientisation extraordinaire ces dernières années, qui n'est pas forcément le fait des partis écologiques, mais une sorte d'ambiance générale où les gens...
En vous écoutant, Nancy Houston, on se rend compte qu'on essaye de retrouver tout simplement du bon sens. C'est-à-dire qu'on a arraché les gens, en fait, à leur cohérence profonde.
Oui, et on les a induits dans des comportements de toxicité et de dépendance. Et donc, les gens sont littéralement accros.
Un homme comme Pierre Rabhi nous a bien montré que nous étions, en fait, élevés hors sol aujourd'hui. Qu'est-ce qui a, en fait, changé quand on a découvert que nous étions le fruit, en fait, de l'évolution, grâce à Darwin, et non pas un bout de terre glaise entre les mains d'un dieu quelconque?
On se rend compte qu'on est responsable de ce qu'on fait, mais il ne faut pas oublier qu'on est aussi très manipulable et que cette manipulation, s'il n'y a personne au-dessus qui va punir les méchants et récompenser les bons, c'est vraiment à nous d'en être conscients. Mais je crois que c'est vraiment important de changer de paradigme maintenant et de se rendre compte que l'écologie, ce n'est pas une petite chose qu'on peut éventuellement se permettre d'ajouter à la vie politique ou à l'économie, mais où le paradigme dominant, c'est économique, et ensuite on regarde éventuellement l'écologie. Le paradigme, c'est l'écologie. Et là-dedans...
C'est les fondations de la maison.
Voilà, c'est les fondations de la maison. On est complètement capable de disparaître de la surface de la Terre. La Terre ne s'en portera pas plus mal. Elle ne se soucie pas de notre présence. Peut-être que nous sommes trop nombreux. Le pétrole nous a permis de nous multiplier de façon très spectaculaire depuis 200 ans, depuis le début de la révolution.
L'énergie pas chère, quoi.
Industrielle, oui. Et puis la fabrication de tous les objets qui nous entourent. Donc il est très possible que 9 milliards de personnes, c'est juste pas tenable. On n'est pas assez sympathique pour s'organiser.
Non, enfin, la notion du partage n'est pas quand même si évidente que ça. Voilà. Et puis surtout avec des modes de vie, on va dire, actuels, dont nous bénéficions parce que nous sommes tous schizophrènes, hein, quand même. On essaye d'être cohérent au maximum. Et...
C'est très possible que de notre vivant, encore, disons, nos petits-enfants ne prendront pas l'avion.
Nancy Houston, alors vous aussi, bien sûr, vous êtes écrivain, et puis vous écrivez aussi pour les enfants et pour les jeunes. Et là, nous avons sous les yeux Plus de saisons, aux éditions Thierry Magnier. Et qu'est-ce que l'on voit ? Eh bien, on voit une jeune princesse qui s'appelle Violine, qui adore les crêpes au Nutella. Formidable ! Alors, elle est dans un grand château, elle ne se pose pas trop de questions, c'est une espèce de petite poupée Barbie, voilà. Et puis, elle sort, elle rencontre pas un prince, pas du tout, un jeune paysan qui s'appelle Jean. Et Jean, il est assez formidable parce qu'il connaît le chant des oiseaux. Et après, on se rend compte que tout ceci est le rêve d'une autre petite fille très actuelle qui s'appelle Aurélie, qui vit à Paris, qui vit dans un deux pièces avec sa maman, et puis qui raconte ses rêves, quoi. Voilà. Et on a toute cette petite trame, on va dire, écologique qui se met en place au fur et à mesure.
C'est un texte que j'ai fait pour un concert avec l'orchestre de Radio France, d'ailleurs, à la salle Pleyel, devant un public d'enfants. Et c'était autour de la musique de Vivaldi et de Piazzolla sur les quatre saisons. Et je me suis dit, je vais profiter de ce thème des saisons pour parler de cette idée, il n'y a plus de saisons. On est en train de changer le climat de la Terre. Et tout ce qui était les thèmes des contes de fées d'avant est en fait en danger. Donc les petits oiseaux, il y a plein d'espèces d'oiseaux qui sont en train de disparaître. Oui. Les petites abeilles, il y a les ours polaires pour la saison d'hiver. chaque rêve que fait la petite Aurélie, en fait, sa mère, quand elle se réveille et elle parle de sa nostalgie, son désir de vivre à l'époque des princesses, sa mère lui dit, on n'a plus de miel, on n'a plus... On imagine que l'histoire d'Aurélie, c'est dans un avenir proche, c'est pas peut-être tout de suite, mais un avenir un peu plus désastreux que là où nous sommes en ce moment. Et en même temps, il y a des avantages aussi. La mère fait remarquer à Aurélie que les princesses ne pouvaient pas aller à l'école, n'avaient pas le droit de vote, n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque.
N'avaient pas d'autonomie du tout.
Oui, qu'elles n'avaient aucune intelligence, en fait, qu'elles n'avaient le droit que d'être belles et de se coiffer. Et donc, Aurélie fait son chemin, là, entre le monde du rêve et celui de la réalité, comme nous tous. Voilà, à la fin, la petite Aurélie va prendre une grosse décision.
Oui, elle va prendre une décision. C'est-à-dire que, en gros, je vais quand même faire des études. Je vais travailler encore plus parce que j'ai envie de voir ce monde changer. C'est ça aussi. Et essayer de l'améliorer.
Oui, et je pense que tout le monde est capable de prendre ce type de décision à son niveau, dans son lieu, et sans, encore une fois, sans faire de la propagande, sans toujours être un rabat-joie. Mais en fait, c'est une création de joie parce que les gens arrivent à trouver de nouvelles approches, de nouvelles solutions et plus personnelles. Et moi, je trouve que c'est bien. Je vois dans ce quartier, on est Paris 20e, il y a des potagers de 1 mètre carré. Dans les cours, les gens ont décidé de faire pousser quelques poireaux, quelques petites tomates, revenir à ces plaisirs-là.
Nancy Houston, si vous étiez vous-même un oiseau, ce serait quoi ?
Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un oiseau qu'on devrait cesser d'imiter, c'est l'autruche.
L'autruche, en plus, met la tête dans le sable et peut-être même la tête dans les sables bitumineux.
Dans les sables bitumineux, c'est exactement ça. Et nous sommes très, très doués, en fait, pour savoir sans savoir, pour savoir que les gens souffrent, pour nous faire plaisir, pour nous donner un mode de vie agréable et puis pouvoir mettre ça entre parenthèses. Donc, sans vouloir être agressif et dire il faut regarder les choses en face et être parfait et tout.
Ça marche pas.
Mais voilà, essayer de sortir de temps en temps la tête des sables.
Ben merci Nancy Houston.
C'était un grand plaisir, Denis. Merci à vous.
Eh bien oui, c'est toujours un régal donc de rencontrer cette femme, Nancy Houston, donc cet ouvrage qui vient de sortir sur elle, enfin, essai autobiographique, signé Nancy Houston, aux éditions Actes Sud, donc Bad Girl, et puis aux éditions Thierry Magnier. Vous retrouverez ça sur le site, franceinter.fr, CO2 Mon Amour. Plus de saisons, là c'est pour les enfants, on va dire, à partir de 6-7 ans. Le site, vous pouvez y aller, vous pouvez en user, en abuser. On a eu des petits soucis, ça arrive. Et donc la semaine dernière, il n'y avait pas sur l'émission sur l'île de Sein les différents sites parce qu'ils ne pouvaient pas apparaître. Voilà. Et donc on a pu les remettre, on a contourné un petit peu l'affaire. Et allez-y. Donc là aussi, c'est intéressant parce que donc une association s'est créée des Amis de la Transition donc de l'île de Sein. Donc j'espère que vous pourrez trouver différents éléments. Et puis aussi donc cette semaine, donc n'hésitez pas. Et puis comme je parlais de livres pour enfants, vous le savez, 19h54 tous les dimanches, c'est la tulle du mon petit loup. Il nous reste encore un autre sujet. Oui, sur France Inter. Dans CO2 Mon Amour, nous allons partir du côté de l'Isère avec ce problème, on va dire, de Center Park. Ah bah oui, elle en a parlé, Nancy Houston. Et donc, avec Thierry Dupin, on s'est dit qu'un petit Nalyang nous ferait assez plaisir. Belle fin d'après-midi, même bel après-midi tout court. It's the
Une seconde, Pierrot, je demande la parole.
Oui. Oh, je demande la parole pour une remarque qui va vous paraître peut-être un peu enfantine. Eh bien, récemment en Amérique, j'ai vu que les enfants réalisaient ce rêve de pouvoir souffler des bulles de savon qui se transforment en ballons avec lesquels on peut jouer. Et c'est avec des plastiques que l'on fait ça. On souffle un plastique comme de l'eau de savon, il durcit en l'air et on en fait un ballon qui dure très longtemps, enfin moi qu'on le crève.
J'ai vu des arbres de plastique dans des déserts inhabités, mélangés à l'organique, sur le rebord des voies ferrées, envahissant tout un village, quand c'est l'air du plastique qui soudain s'en va en fumée. La mélodie la plus toxique que l'homme aurait pu inventer. Cendres noires dans le ciel retrouveront leur paysage. La musique est partout la même. Cette terre est juste de passage.
CO2 Mon Amour avec Denis Chessou sur France Inter.
Ah bah oui, de temps en temps avec Christophe Imbert, mon réalisateur, donc on s'amuse, il n'y a pas de raison. Donc on a un extrait à peu près des années 50, vous voyez, sur les fameuses bulles, bah oui, maintenant on le fait tous les jours. Et puis, donc un extrait aussi de trio, donc des hommes tout à fait engagés en matière environnementale. Écoutez.
Le projet, je suis à 100% pour, parce que ça peut faire vivre le village, et puis ça peut ramener de l'emploi, même quel que soit l'emploi.
Avec ce projet, la zone des Chambarans va devenir une zone de conflit d'usage de l'eau. Le Conseil national de protection de la nature, de manière quasi unanime, a voté un avis défavorable à ce projet. On ne peut pas s'asseoir dessus. C'est la plus haute instance nationale de protection de la biodiversité. Et puis en destruction de 62 hectares de zones humides, de 90 hectares de forêt de grande qualité, on va essayer de compenser. C'est-à-dire de trouver des zones équivalentes à protéger pour implanter ce projet. Est-ce que c'est vraiment un projet d'intérêt public ?
Je suis complètement pour, parce que ça va avoir des retombées pour tout le bassin, pas que pour Roibon.
Qui n'a pas sa zone à défendre ? Notre-Dame-des-Landes, la ferme des 1000 vaches et aujourd'hui, au pied du Vercors, un nouveau Sivin. Ce point d'interrogation, c'est ce que titrait Martine Vallot dans Le Monde cette semaine. Alors nous sommes en Isère, nous sommes en lisière de la Drôme, altitude à peu près 600 mètres. On n'est pas loin de Saint-Marcellin, ça vous dit quelque chose si vous aimez le fromage de chèvre. Le promoteur de tourisme Pierre et Vacances souhaite ouvrir un 6e Center Park en France, le 25e en Europe. Un peu moins, on va dire, de 1000 logements accueillerait plus de 5600 personnes avec activité aquatique, avec une bulle à 29 degrés, commerce, boîte de nuit, 200 hectares au total et 2000 places de parking. qui, rien que seul, boufferont à peu près 6 hectares. Alors l'opération commence il y a bien sûr quelques années, mais le gazouillis, les tronçonneuses entrant en action dans la forêt des Avenières, dans le massif de Chambaran, bah, là, bien sûr, il y a un réveil médiatique plus important. Problème, bah, choix de société, choix économique, le tout sur une zone humide. Alors j'ai téléphoné à Pierre et Vacances, hein, qui pour des raisons de disponibilité, m'a-t-on dit, ne pouvait pas s'exprimer. Donc je tiens à remercier tout de suite le maire de Roibon, Serge Perrault, d'avoir accepté de nous répondre et qui défend, lui, ce projet. Donc, monsieur Perrault, quels sont vos arguments?
Eh bien, au lieu de faire une usine traditionnelle de sidérurgique ou je ne sais quoi, la première activité en France, c'est le tourisme. Donc, on aurait un centre de touristes à Roibon, donc qui s'incorporerait complètement dans le paysage.
Alors, le problème, c'est qu'il y a quand même à peu près 200 hectares, vous le savez, et on a quand même vu une enquête d'utilité publique qui a été défavorable.
Alors, d'une part, 200 hectares, oui. La commune de Roibon est une des plus grandes communes de France. Elle fait 7000 hectares. Mmh. Et le massif de Chambaran, c'est 40 000 hectares. Donc, le massif, le projet de Center Park représentera 0,40% de la surface impactée du massif de Chambaran. Pour moi, c'est peanuts, comme on dit. Mmh. Et quant à l'enquête défavorable, cette enquête, à mon avis, elle n'a pas été diligentée de façon impartiale. Donc, il a été relevé 12 points négatifs. Donc, sur les 12 points, il y en a 4 qui sont nuls et non à nu. Et quant aux autres, les principaux, c'était la surface des zones humides. Elles ont été recalculées, donc ça correspond bien à ce qui est dans le permis de construire.
On va dire une centaine d'hectares pour faire très simple. Hein. 76 selon la préfecture, 120 selon les associations. Donc, on va dire une centaine d'hectares. Quoi.
Donc, le maître d'ouvrage Pierre et Vacances, en échange de cela, restituera 40 hectares supplémentaires de zones humides.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle la compensation.
Nous restitueront 200 hectares.
Mais quand même, on est sur une zone humide qui fonctionne bien, et puis il peut y avoir aussi un problème sur les nappes phréatiques, point d'interrogation.
Non, pas du tout, parce que les masses phréatiques, les paysans, il y a dans les années 80, pour pouvoir cultiver la terre, ils ont drainé toutes leurs terres. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, on ne pourrait plus faire. Oui. Ces clos ne s'infiltrent pas du tout et la nappe n'est pas du tout impactée. Ça, c'est vraiment des bêtises.
Alors, Monsieur Perrault, il y a aussi le problème du prix du terrain. Pierre et Vacances donc, a pu acheter donc, à votre commune 200 hectares d'un seul tenant. Là, ça a été combien?
J'ai été très, très content de trouver quelqu'un qui était intéressé pour m'acheter 200 hectares à ce prix auquel il a été vendu, à 30 centimes d'hectare. Et puis en même temps, il faut valoriser tout ce que ça va apporter. C'est un investissement, un retour sur investissement par rapport à toute la valeur économique que ça va apporter.
Alors qu'est-ce que ça peut vous rapporter, vous, Monsieur Perrault?
Mon village, c'est un beau village, donc vous le connaissez, je crois. Oui. C'est un très très beau village.
Avec une très belle statue, une réplique de la statue de la Liberté, hein, si je me souviens bien aussi.
Nous avons une réplique de la statue de la Liberté, sur la place. C'est une copie exacte faite par Bartholdi lui-même. Roibon, je veux avoir les moyens de lui redonner sa beauté originelle, comme je dis, que ces places, qu'on puisse faire des chemins, des randonnées équestres, etc.
Ce que vous nous dites, que financièrement, donc, vous avez donc des problèmes, comme beaucoup de municipalités, et que ce serait une manne pour vous, quoi.
Le retour sur investissement, c'est 2,5 millions d'euros de taxes sur les permis de construire que l'on va toucher rapidement. Et après, c'est quelque chose comme 600 000 euros par an sur les propriétés bâties et non bâties.
Et donc quelques emplois aussi.
Quelques emplois, oui, il y en a 700, donc il y a 450 équivalents temps plein, comme on dit, et puis des emplois précaires, comme il est dit, mais les emplois précaires, à Roibon, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'entreprise, à part l'EHPAD de Roibon, l'hôpital, la résidence. Donc faire un emploi, un mi-temps à la cantine de Roibon, faire un mi-temps à Center Park à la journée, ça fait un emploi plein, c'est ce qu'on demande aussi.
Monsieur Perrault, comment vous réagissez lorsqu'on peut vous dire, mais attendez, là on est en train de détruire en fait de la nature, pour après de nouveau reconstruire une autre nature avec une bulle, on va dire, d'Aqualand, avec 2000 places de parking. Vous voyez, il y a un côté peut-être un peu absurde comme ça. On se dit, vous avez une nature qui est belle, qui fonctionne, et puis on va reconstruire autre chose qui va être renaturée.
C'est quelque chose qui s'intègre complètement. Ça, vraiment, je l'ai visité, je suis très rassuré de ce côté. La bulle, eh bien, écoutez, en bilan carbone, on peut faire aussi des milliers de personnes qui vont venir à Roibon, qui ne prendront pas l'avion pour aller en Tunisie ou pour aller je ne sais dans quel pays. Mm-hmm. C'est de l'économie qui vont faire profiter à la France comme industrie touristique. Donc ça ne me préoccupe pas du tout. Voilà.
Serge Perrault, ça veut dire que derrière tout ça, il y a de la déforestation. Quelle est votre réaction quand on parle de déforestation du massif de Chambaran?
La déforestation, en caricaturant, je dis grâce à Center Park, j'aurai au moins une forêt qui sera protégée et il y aura une clôture qui protégera la forêt.
Alors là, je comprends pas.
À savoir qu'aujourd'hui, personne ne m'en parle, personne ne vient me secourir pour arrêter le massacre du massif de Chambaran, savoir qu'on déforeste complètement pour alimenter des chaudières et des camions complets par tous les jours remplis de copeaux. Donc à la vitesse où cela ça va, dans même pas 10 ans, la forêt sera complètement détruite.
Non, c'est intéressant parce que vous mettez ça en perspective. Ça, vous nous dites, bon, d'un côté, on va avoir une centaine d'hectares là, qui vont partir et qui vont être déforestés. Hein, c'est bien cela, hein, à peu près.
Oui, complètement.
Voilà. Et en même temps, ça va aussi peut-être protéger, ce qui est le paradoxe, une partie de la forêt de Chambaran.
Exactement. Et puis à l'intérieur, Pierre et Vacances s'engagent à faire tout ce qui sera possible. Donc c'est aussi prévoir les essences qui pourront être valorisées dans 20, 30, 40 ans. Donc il y a plein de choses intelligentes qui peuvent être faites de façon bien différente de maltraitance qu'elle subit aujourd'hui.
Merci à vous, Monsieur Perrault, donc maire de Roibon. Je vous ai parlé de fromage de chèvre à Saint-Marcellin, mais je me flagelle. C'était de la vache ? Bah oui, c'était ça. Bon, c'est pas le cœur du sujet aujourd'hui, mais quand même rectifions. Alors maintenant, effectivement, d'autres arguments. En face, l'association pour les Chambarans sans Center Park, et puis aussi Éric Ferraille, vous êtes le président de la FRAPNA Rhône-Alpes, c'est-à-dire la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature, qui regroupe 50 000 adhérents, donc association agréée Protection de la Nature, habilitée pour le débat public. Quels sont, vous, vos arguments ?
C'est la plus grosse destruction de zones humides depuis des décennies en Rhône-Alpes. C'est environ 100 hectares de zones humides qui vont être détruites pour un projet immobilier privé, financé en partie sur des fonds publics. Mais bon, là où le bât blesse, c'est qu'on utilise des fonds publics pour détruire des zones humides que, par ailleurs, on protège par la loi. Donc d'un côté, vous avez des fonds publics qui servent à protéger des zones humides et des mêmes fonds publics qui servent à les détruire. Bon, il est clair que aussi c'est un gaspillage de territoire. Quand on gaspille à peu près 200 hectares de territoire, que ce soit des espaces agricoles ou des espaces naturels, au rythme où nos territoires sont artificialisés en France, il y a à peu près un département qui est urbanisé.
Tous les 7 ans, 17 ans.
Oui, maintenant le rythme s'est encore accéléré. Donc c'est vraiment plus un rythme soutenable. Alors tout ça, ça participe à ce gaspillage d'espace. Et l'espace, c'est dont on a besoin, notamment pour se nourrir ou pour produire des matériaux comme le bois, par exemple.
Alors ce que nous disait donc Monsieur Perrault aussi, c'est que de l'emploi, des fonds, c'est une commune qui n'a pas d'argent, qu'on a très très peu, comme beaucoup. Et là, on rejoint une problématique de zone rurale.
Un Center Park, certes, on annonce 600 emplois sur le papier, mais ce ne sont pas 600 emplois à plein temps. Enfin, qui aurait la naïveté de le croire qu'avec 1000 cottages, on peut faire 600 emplois à plein temps. Ce sont des emplois à temps partiel, la plupart en CDD. Enfin, quand on regarde le modèle de Center Park, il y en a plusieurs autres en France. Hein. On peut très bien avoir une excellente idée du type d'emplois qui sont ainsi créés.
Et une partie de la population le souhaite, hein.
Évidemment qu'ils le souhaitent parce qu'ils placent de grands espoirs dans ce type de développement. Maintenant, c'est aussi la responsabilité des politiques régionaux et départementaux aussi de mettre les moyens et de générer une dynamique différente de développement de l'activité économique dans les territoires ruraux.
Qu'est-ce que l'on pourrait leur offrir ?
Écoutez, il me semble que la région Rhône-Alpes est en train justement de commencer à réfléchir un petit peu par comment aider les territoires à se développer, comment développer de l'activité touristique dite douce de proximité, comment développer un petit tissu industriel, artisanal local, etc. pour maintenir de l'emploi localement et que les gens qui habitent sur place puissent travailler sur place. Et Roibon n'est qu'un exemple criant de cet enjeu national de redéveloppement, de redéploiement du tissu économique local qu'on a littéralement laminé dans ces dernières décennies.
Monsieur Perrault nous disait aussi que, en fait, le paradoxe, c'est que cette forêt de Chambaran est aussi énormément déforestée pour des questions d'énergie aujourd'hui, d'énergie bois, et que le fait qu'il y ait ce Center Park pourrait être une espèce de bulle, certes au sens premier du terme, d'un point de vue touristique, mais une bulle qui pourrait protéger une partie de cette forêt ou nouvelle forêt.
Le problème n'est pas la forêt des Chambarans qui, en elle-même, soyons clairs, c'est un taillis de châtaignier à rotation courte qui n'a pas une valeur biologique extrême en tant que forêt. Mmh. On est sur une problématique zone humide, on n'est pas sur une problématique forêt. Et c'est là où on ne se comprend pas très bien, sans doute. Les zones humides, on en a détruit à peu plus de 70% en moins d'un siècle en France. Voilà, typiquement, là, on est sur ce qu'on appelle une tête de bassin versant, c'est-à-dire que plusieurs rivières, plusieurs cours d'eau prennent leur source. Alors, ce sont des cours d'eau qui vont sur le département voisin, la Drôme. Là, on retrouve une problématique typiquement française, c'est-à-dire je me fous de ce qui se passe chez le voisin, ce qui compte, c'est ce qui se passe chez moi. Donc, effectivement, l'eau part de l'Isère et va dans la Drôme. Sur des cours d'eau qui sont déjà en déficit hydrique fort. avec une agriculture dromoise qui dépend de la quantité d'eau et de la qualité d'eau qui arrive dans ces cours d'eau. Donc là, on a une vraie problématique eau, on n'a pas une problématique forêt. Et c'est là où monsieur le maire se trompe complètement. C'est presque un quart du département de la Drôme qui peut être impacté par ce projet en termes de prélèvements supplémentaires pour alimenter le Center Park. Il faut bien de l'eau pour alimenter les bulles et pour alimenter les cottages en eau potable. Et en plus, on a un risque de pollution et en plus un risque d'assèchement des sources par la destruction directe et indirecte des zones humides. Donc on a une problématique eau, on n'a pas une problématique forêt. Nous, on se bat pour l'intérêt général. On n'a aucun intérêt particulier à défendre dans cette histoire. Personne n'a de propriété là-bas, personne n'a d'argent là-bas. C'est juste un problème fondamental d'utilisation, de gaspillage de ressources naturelles, et rien n'est plus précieux que la ressource en eau de nos jours. Là, typiquement, on essaye de faire rentrer un pied de 45 de pointure dans une chaussure de 37, et après on s'étonne que ça fasse mal.
Bah oui, on est sur une zone Natura 2000 hein, quand même aussi. Si vous voulez, c'est un peu comme si on posait une usine au sommet d'un château d'eau, un peu cette affaire. Voilà, alors le Conseil général de l'Isère est absolument pour. Ce sont d'ailleurs aussi des gens qui donnent des subventions aux différentes associations. Voilà. Et puis, sinon, Jean-Jacques Kéran, lui, un petit peu, donc président du Conseil régional de Rhône-Alpes, s'entend peut-être un peu quand même le coup partir. Là aussi, c'est dit, bon, ce qu'on va faire, on est très légaliste. Donc, suite des opérations, une demande au préfet et à Ségolène Royal de suspendre les travaux le temps que la justice dise la loi. Il y aura un premier référé suspension qui a été déposé, qui sera jugé le 12 décembre. Il y en aura d'autres peut-être par la suite. Et puis, donc, on verra. Et puis, un petit dessin de T-News qui est assez marrant dans Marianne. Et en gros, c'est quand on aura bien pourri toute la planète, eh ben on sera bien content de se réfugier dans un Center Park.
And here's to you, Mrs. Robinson. Jilly loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. Oh, bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for our files. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. The PTA, Mrs. Robinson, won't okay the way you do your thing. Ding, ding, ding. And you'll get yours, Mrs. Robinson, with that young stuff like you do. Hoo, hoo, hoo.
Ah bah vous avez reconnu, bah bien sûr, nous allons partir très vite là dans les Deux-Sèvres, on va vous rejoindre Sylvain Houillet, bonjour à vous, je vois arbre, agriculture et transition écologique à Azel-Brûlé.
Bonjour Denis, d'abord merci et bonjour à tous les auditeurs, auditrices. Oui, alors à Azel-Brûlé ce week-end, eh bien ce sont les cinquièmes rencontres sylvagraires. Alors ça n'a rien de mégalomaniaque, c'est la rencontre de l'arbre et de l'agriculture, un mariage qui peut réussir à travers l'agroforesterie, à travers la réhabilitation des bocages et puis à travers une dynamique qu'on peut appeler de transition dans le monde rural sur renouer du sens, renouer du lien sur la manière de produire l'alimentation et les paysages finalement et puis tout ce qui en découle, la biodiversité, etc. Donc les rencontres sylvagraires à Azel-Brûlé, voilà, c'est une manifestation avec des projections de films. Samedi soir, c'est le film Au rythme du bocage et puis dimanche après-midi, le fabuleux film À la découverte du royaume des sylves tropicales avec Il était une forêt, le film de Luc Jacquet, initié par Francis Allais.
Eh bien, c'est noté. Merci à vous. Merci à Benjamin Lagatinet, à Stéphane Beaufils à la technique, à Albert Houck, à Jérôme Boulet et Christophe Imbert qui réalisait cette émission. Anne Gouzon a nourri les sites de co2franceinter.fr. Allez revoir ceux de l'île de Sein la semaine dernière, ceux de cette semaine, enfin ce que vous voulez, et puis échanger de toute façon entre vous. 01 56 40 40 35, c'est le répondeur. On reprendra nos habitudes très prochainement. Bol de nature, c'est le vendredi à 6h25. Ah Ah oui, là c'est 3 minutes, mais il faut être assez matinal. Et puis, possibilité, bah, vous le savez, le podcast, le tweet, chez Sou, simplement. CHEI2SOUX. On vous donne des petites informations, donc avant, aussi sur la Tulu, etc. Je vous souhaite un excellent week-end.